Toujours en antenne de l'émission Zigzag, c'est Chandon Marcotte qui est avec vous jusqu'à 18h. On est maintenant rendu à la partie entrevue musicale, mais avant, pour tous ceux et celles qui aiment la pop francophone flamboyante, pétillante, eh bien, j'ai un artiste à vous proposer, Megan Cyr, qui vient de lancer son premier album, L'impermanence des choses, le 12 novembre dernier, un album de pop francophone qui va faire plaisir à plusieurs d'entre vous. Et justement, pour en parler, nous avons eu le plaisir de recevoir l'autrice, compositrice et interprète au téléphone. Mais avant, mettons-nous dans l'ambiance avec la chanson-titre de l'album. Voici un extrait de la chanson L'impermanence des choses.
Il faut accepter l'impermanence des choses, l'amour à petite dose et l'apprécier comme on ose. Il faut accepter pour pardonner la cause, la perfection des pros, c'est des gestes que l'on pose.
Alors, Megan Cyr, bonjour.
Bonjour, Charles-Antoine.
Ça va bien?
Ça va bien, toi?
Bien, merci. On te reçoit aujourd'hui pour présenter ton premier album, L'impermanence des choses. Premier album, donc, suite à un début de carrière qui a commencé en 2015 avec le premier EP, Fusion Malsaine. Entre-temps, il y a eu d'autres EP comme T'écrire. Et on arrive donc avec L'impermanence des choses, qui est un premier album qui est produit de façon indépendante. Est-ce que je me trompe?
Non. Tout à fait. Je suis productrice de ma musique là, depuis le début.
Mais entre le premier EP et le premier album, qu'est-ce qui s'est passé?
Entre le premier EP et l'album, en fait, je pense que c'était beaucoup de la découverte musicale, mais aussi identitaire. Là. Je pense que la vingtaine, ça sert à ça. Ben, on continue évidemment à se remettre en question par la suite, mais... Je pense que j'ai vraiment grandi à travers ce processus-là, puis ben ça se reflète très bien dans ma musique là. D'ailleurs, si des fois là, je redécouvre mon Spotify et je me dis oh oui, on voit la différence. Donc je suis contente, c'est comme c'est un bel accomplissement là de voir ce cheminement-là.
On peut mentionner que pour le premier album, tu as travaillé avec plusieurs producteurs, dont certains qu'on voit très très souvent. Mike Clay, il a travaillé avec tout le monde, on dirait. Il y a aussi Jérémy Essiambre et Luca Perrault. Donc, on est de retour sur un son qui est beaucoup plus pop. Mais justement, qui a apporté cette touche-là au final? Est-ce que ça a été un désir de ta part ou ça a été juste la rencontre des producteurs qui, eux, sont très portés sur ce genre de son-là?
Mais premièrement, c'est une très bonne question. Lucas et Jay, ça fait longtemps que je les ai dans ma vie. On a fait de la musique ensemble pas mal. Donc, je connaissais beaucoup leur force, leur signature aussi musicale. Puis ça, je savais pertinemment que c'était le son que je recherchais. Je trouvais que c'était un beau duo. Puis finalement, c'est ça, ça a été une collaboration vraiment mémorable. Sinon, pour Mike Clay, ça faisait longtemps que je voulais travailler avec lui aussi. On a fait des coachings d'écriture ensemble. Puis je me suis rendu compte que, dans le fond, il allait pouvoir nous aider à apporter cette petite touche-là, hip-hop, soul, R&B, qui maîtrise super bien, puis électro aussi. Donc, je pense que c'est vraiment, ça a été une belle recette gagnante là pour le projet.
Si on regarde maintenant du premier EP, en 2015, il y avait Fusion Malsaine et le premier album, tu es restée la productrice des projets. Mais est-ce qu'en 2015, il y avait un désir justement de se faire épauler par une maison de disques ou ça a toujours été une intention de rester dans l'indépendance?
En fait, en toute honnêteté, oui. J'ai jamais vraiment approché des maisons de disques.
Ah. Pourtant,
c'est vraiment un désir que j'ai. En plus, je m'en rends de plus en plus compte, plus le projet grandit. Bon, là, c'est un album complet, c'est énormément de travail. Évidemment, j'ai délégué à des personnes. Là, je me suis comme créé une petite armée avec le temps du monde que je trouve super compétent. Puis on est arrivé à un résultat vraiment incroyable. Mais c'est sûr que ça m'aiderait énormément. C'est comme si je me suis toujours dit, « Oh, à un moment donné, je vais être prête ou ça va être assez bon. » Puis ça va être assez invitant. Puis là, j'attends toujours le bon moment. Puis là, je m'étais dit, bon, avec cet album complet-là, c'est quand même une très bonne carte de visite et ça reflète vraiment bien mon identité musicale. Donc, je m'étais dit que j'allais commencer à faire des démarches à ce niveau, donc à suivre. Peut-être que cette année sera l'année où je vais trouver ma maison, mais j'aimerais bien.
Mais déjà là, on peut le mentionner, il y a beaucoup d'attention sur les plateformes de streaming. Les chansons se retrouvent à la radio, l'impermanence des choses, le single par exemple. Donc, mine de rien, ça va bien. Tu es quand même bien entouré. T'es pas avec n'importe quel producteur qu'on trouve sur GoDaddy ou sur Craigslist. C'est quand même Mike Lee. Donc, mine de rien, même si tu réussis pas à trouver la maison, t'es quand même très bien entouré dans cet album-là.
Oui, puis j'aime ça, cette indépendance-là aussi. C'est comme pas tout ou rien là dans ma décision. Je trouve que c'est de plus en plus là, il y a des artistes qui se représentent eux-mêmes. D'ailleurs, ce matin, j'entendais à la radio chez les Mont-Simon là qui commençait à parler à quel point c'est difficile de se représenter soi-même.
Ouais. Ça c'est large. Hein. Ouais. Je connais le cas de Philémon Simon parce que je connais un peu son équipe, mais ça c'est large. Et même d'ailleurs, il y avait le gérant de Clopelgag, là on fait un aparté là-dessus, mais il y avait le gérant de Clopelgag qui s'était exprimé sur le sujet, qui avait donné une très bonne vision sur la différence entre croire en son projet et croire à le projet d'une autre personne. C'est deux affaires complètement différentes. C'est le côté d'investissement et à quel point tu peux sentir de t'y remettre. Et comme il disait, les gens qui croient pas assez à leur projet, c'est eux souvent qui ont le gros potentiel, mais qui le savent pas.
Exact. C'est ça. Je pense que ça arrive souvent que les artistes ne veulent pas. On est assez insécure de nature. Là, je veux pas généraliser, mais c'est extrêmement difficile de croire dur comme faire à son projet. Moi, je suis la première à avoir attendu aussi longtemps avant de sortir mon album parce que j'avais de la misère à me faire confiance. Je trouvais pas que c'était assez bon. Je trouvais pas que j'avais ce qu'il fallait pour justement tout faire ça toute seule, gérer ma carrière et tout. Tu sais, c'est un long processus qui est dans l'ombre sans nécessairement être valorisé. Donc, c'est faut vraiment être capable de se valider soi-même, mais aussi, par exemple, c'est sûr que ça peut aider d'avoir plus de ressources puis d'avoir accès à plus de subventions. Moi, je pense là, pour la première fois de ma vie, j'ai eu j'ai eu une jeune volontaire avant qui m'ont bien épaulée, mais j'ai eu la subvention du Conseil des arts et lettres pour composition-création. Ça m'a extrêmement aidée. Là. En anglais, là, ça a été vraiment un game changer pour moi. Enfin, d'avoir de l'aide là, de l'extérieur pour financer mon projet aussi. Puis ça se reflète évidemment dans le résultat. Là. Donc, c'est sûr que c'est ça. C'est un peu de tout, mais je pense que c'est possible de se représenter soi-même, mais ça prend de l'aide.
Pour revenir justement aux intentions de la musique, on va revenir dans la musique. Pour le premier extrait, l'impermanence des choses, il est venu un vidéoclip avec tout où on te suit alors que tu te promènes dans les îles de la Madeleine. Il y a pas grand, il y a rien de sérieux. C'est vraiment juste pour le simple plaisir de danser, de chanter, de faire un vidéoclip. Et pendant l'écoute du vidéoclip, j'ai vraiment ressenti ça à travers l'album. Tu sais, il y a pas grand chose de sérieux. Puis c'est pas insultant en soi, c'est vraiment juste de, tu sais, au final, on finit tout par avoir les mêmes pensées, les mêmes le côté de vouloir faire un lâcher prise. Moi, j'aimerais savoir dans l'intention d'écriture des chansons, est-ce qu'il y avait ce désir-là ou dans ta tête c'était vraiment quelque chose de vouloir porter sur des thèmes plus sérieux?
Ben, en fait, je trouve qu'il y a vraiment un bon mélange des deux dans l'album. Mm-hmm. Je trouve que j'ai des chansons où je suis allée plus aborder la santé mentale, la détresse psychologique. Il y a des chansons aussi qui ont été très personnelles, qui ont parlé d'expériences de pandémie, qui pour moi, en tout cas, étaient plus profondes. Puis j'en ai d'autres, justement, où j'ai voulu y aller avec un côté plus léger, parce que c'est quelque chose que j'avais pas vraiment fait dans le passé. On dirait que là, j'avais l'impression qu'il fallait que qu'il y ait un message clair à chaque fois et tout. Puis je faisais pas non plus des chansons si dansantes avant. Je trouve que là, le côté électro a vraiment amené ça. Donc, quand c'est une chanson plus pop, j'avais envie aussi de rester dans cette lignée-là, puis des fois, pas trop me poser de questions.
Mais c'est ça... Excuse-moi, continue. Ouais.
Non, allez-y.
On peut se tutoyer sans problème, là. Mais j'ai pas demandé avant, c'est mon erreur. Mais pour venir justement au côté électro, est-ce que tu as peur justement que la musique électro finit par un peu cacher les paroles, un peu comme Stayin' Alive des Bee Gees? C'est une bonne toune, mais quand on finit par voir les paroles, c'est très, 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 très sérieux. Est-ce que tu as peur que la musique cache un peu les paroles puis que les gens dansent sur des trucs qui sont vraiment sérieux de « j'ai envie de mourir, non, mais la musique est vraiment bonne!
» Ben, je comprends. Pas nécessairement parce que vraiment, c'est aussi important pour moi d'avoir ce son-là. Je trouve que c'est aussi représentatif de la musique que je veux donner que les sujets que j'aborde. Donc, ça me rend heureuse quand même parce que c'est vraiment des arrangements qui me satisfaient énormément. Puis, qui me satisfont, pardon. Puis, c'est ça, je pense que il y a des chansons, les chansons qui sont plus profondes, ben je pense qu'on est allé aussi avec des arrangements plus sobres. Je pense, j'ai pas eu l'impression en tout cas que c'était déplacé. J'ai toujours trouvé que c'était à propos, puis ça donnait quand même le ton. On a réussi à trouver un bon mariage, je pense. Mais ben, bon, je sais pas si les gens vont le voir comme ça.
Ben c'est pas déplacé. Je m'excuse, je t'entends encore interrompu, tu disais?
Ben non. Je fais tout le temps ce mois-ci. Mais c'est ça, je serais curieuse, par exemple, d'entendre le commentaire de quelqu'un qui écoute l'album pour la première fois. Moi, c'est certain que je l'ai écouté, donc peut-être que je le vois comme ça. On verra.
Parce que pour ma part, je me concentre sur les paroles quand on chante en français, parce que les paroles, c'est quelque chose qui vient me rejoindre. Et c'est justement ce côté de... Tu sais, quand une chanson pop passe à la radio, c'est un peu de la consommation rapide. Donc, au final, est-ce que quand tu chantes tes chansons, quand tu vois le public écouter la musique, est-ce que tu sens qu'il se concentrait aux paroles? Mais tu sais, c'est à chaque fois que je pense à ça, je repense toujours à la même histoire. La chanson « Release Me » de Engelbert Humperdinck, sortie dans les années 60. Une chanson où le chanteur dit « Please release me and let me go ». ».« S'il te plaît, laisse-moi partir ». De cette relation, et il y avait nos grands-parents qui dansaient là-dessus puis qui disaient « Oh mon Dieu, c'est romantique! » alors que c'est une chanson extrêmement triste. Fait que c'est dans la même intention, justement, où quand on consomme rapidement de la musique, surtout avec les plateformes de streaming, est-ce que l'artiste, quand elle regarde le public, est-ce qu'elle est contente, est-ce qu'elle est fière de son intention?
C'est intéressant. C'est certain que je suis quelqu'un qui adore écrire. Pour moi, les mots, c'est super important. J'adore quand quelqu'un vient me parler de mes textes. Ça me fait extrêmement plaisir parce que pour moi, c'est ça mon but. C'est qu'on prenne le temps d'écouter l'histoire, d'essayer de comprendre les images. Donc, moi, c'est sûr que c'est très important pour moi. Par contre, je trouve que c'est quand même assez valorisant de relever le défi, justement, d'être capable de flouer tout le monde, puis d'être capable de faire une chanson animée, pop, même radiophonique, avec aussi des fois un message qui l'est moins. Moi, je trouve que j'ai pas de problème avec ça, puis j'ai vraiment une ouverture. Tu sais, peu importe de quelle façon mon album va parler aux gens, peu importe l'angle que tu prends, ça va toujours me faire plaisir. Là. Mon but, c'est juste que c'est ça, que quelqu'un puisse l'apprécier, peu importe, on a tous une écoute un peu sélective. Là. Mon bassiste, par exemple, va peut-être écouter autre chose que moi. Là. Donc, je pense que ça, c'est juste normal. Puis, je trouve ça même vraiment valorisant de voir les autres directions là, que peut prendre cet album.
Pour terminer, justement, tu viens tout juste de commencer ta première rentrée scolaire comme professeur à maternelle, et la question qui tue, est-ce que tes étudiants ou tes élèves ont écouté ton album? Est-ce que ça faisait partie d'un cours de musique? On part le CD!
c'est drôle parce que, bon, c'est des élèves à la maternelle, ils ont 5 ans. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis en rencontre de parents, là, c'est vraiment une drôle de double vie.
C'est pas vous, la chanteuse qu'on entend à la radio?
Oui, c'est ça. Mais les élèves, bon, j'ai fait tirer quelques albums dans la classe. Les élèves, c'est un bel âge parce que je sais que j'ai des sujets des fois assez matures dans mon album. Bon, j'ai clairement pas le même personnage, là, la Madame Megan. C'est pas la même personne que la personne que je suis sur scène ou à travers ma musique. mais sont trop jeunes, je pense, pour comprendre vraiment la profondeur ou les doubles sens derrière ça. Donc, j'ai pu quand même partager ma musique avec eux. Puis eux, ils sont super fiers, même s'ils comprennent pas trop. Là. Ça... Il y en a qui pensent que c'est des spectacles de danse et tout, mais je pense qu'ils aiment vraiment ça, ce côté artistique-là. Puis on travaille fort là-dessus aussi. On est beaucoup dans le jeu, les arts et l'humour. Donc, c'est quand même connexe, même si c'est très, très différent, là.
On va finir là-dessus. Mégane Tissé, autrice, compositrice, interprète qui vient nous présenter son premier album, L'impermanence des choses. Merci beaucoup de nous en parler au 101.9 CHI.
Bien, un gros merci à toi. C'était vraiment un plaisir.